bienvenue. On va parler d'horreur, de fantastique. Et on va essayer de gratter avec nos invités un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'horreur et le fantastique? À quoi ça sert dans l'imaginaire? Pourquoi est-ce qu'on démembre des gens ou qu'on les vide de leur sang? Et au-delà de ça... Au-delà de ça... Non, mais au-delà de ça, on va...
Est-ce qu'il fallait une raison?
L'idée, véritablement, c'est de voir un petit peu à quoi ça sert, concrètement. Alors, on a un plateau de trois invités. Vous me pardonnerez parce que j'ai oublié mes petites notes, mais néanmoins, j'en connais suffisamment. À ma droite, Morgane Cossarieux, donc un roman dans les veines, roman vampirique, un slatterpunk.
Splatterpunk.
Excusez-moi. Un splatterpunk. Donc elle vide les gens de leur sang. Et parfois, elle les éviscère, et même si c'est des bébés.
Ouais.
C'est ça.
Surtout si c'est des bébés.
Évidemment. Et puis, Morgane n'est pas qu'auteur, elle est aussi l'auteur d'un essai, Vampires et Bayou. Donc l'idée, les vampires, Amérique du Sud. Louisiane, tout ça. Juste à côté, Sir Cédric. Et bon, on va en parler après parce que c'est un homme, donc je suis encore cadre.
Non.
Non, c'est très non, mais.
Non, dans l'ordre. Allez, je t'en prie.
Donc, Sir Cédric, qui est romancier, thriller, polar fantastique, comment tu définirais?
Je définis pas, mais oui, thriller et surnaturel.
Donc, L'Enfant des Cimetières, Le Premier Sang, et le dernier qui sort.
La Mort en Tête, le mois prochain.
Voilà, La Mort en Tête, le mois prochain. Donc, lui aussi, l'horreur, le fantastique, il s'en sert, et on va lui demander un petit peu comment il s'en sert, quelles sont les limites aussi à l'horreur, jusqu'où on va, jusqu'où on peut aller, et toujours dans le même ordre d'idées. Neko, c'est la partie un peu jeu de rôle.
Tout à fait.
De notre table ronde. Neko, donc, les jeux de rôle culte. Z-Corp,
ça c'est un des derniers cultes, on l'avait traduit il y a longtemps.
Voilà, et tout à l'heure tu m'as parlé de celui qui arrive.
Knights Black Agent, qui est sur avec une base vampire.
Voilà, donc on va pouvoir aussi voir comment est-ce qu'on s'en sert en jeu de rôle, comment est-ce qu'on s'en sert du fantastique et de l'horreur en littérature. Est-ce qu'en jeu de rôle, et on va encore plus loin dans la description et tout ce qu'on peut faire des personnages. Et puis on va parler aussi de Toulouse, enfin on va un petit peu de tout ça. Je voudrais commencer un petit peu par toi, Morgane. Alors le splatterpunk, pourquoi avoir choisi, donc Dans les veines est un roman vampirique, et un roman vampirique qui se distingue par son côté particulièrement sanglant. Qu'est-ce que tu avais envie de faire et pourquoi tant de sang, entre guillemets, tant d'horreur?
Alors en fait j'ai voulu réhabiliter le vampire comme on le connaissait plutôt à l'époque de Dracula, c'est-à-dire un vampire méchant, un vampire qui tombe, qui brille dans le soleil. Enfin, j'étais vraiment réaction à toute cette vague. Et donc, du coup, j'ai voulu aller plus loin que tout ce qui avait été fait. Et j'ai voulu un petit peu, parce que le vampire, on le vend beaucoup par rapport au sexe et au sang. Et j'ai voulu un petit peu me jouer du lecteur avec ça, lui en donner tellement que ça irait jusqu'à le dégoûter, un petit peu lui renvoyer cette fascination malsaine qu'il pourrait avoir par rapport au vampire.
T'avais envie de le mettre mal à l'aise?
Oui.
D'accord.
Et je voulais aller prendre le lecteur à ses propres vices.
D'accord. D'où les histoires de sexe avec notamment un enfant, vampire, oui. Qui n'est pas vraiment un enfant, mais qui est un enfant quand même. Quoi.
Oui, voilà. Approcher un petit peu tous les tabous qui peuvent gêner et qui n'ont pas forcément rapport avec le vampire, mais justement des choses qui ne passeraient pas si c'était des humains, mais qui passent parce que c'est des vampires, mais en même temps ça mettrait mal à l'aise. Et le vampire permet ça.
Alors, qu'est-ce qui te donne envie de mettre mal à l'aise ton lecteur? Est-ce que tu as envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements? Est-ce que c'est aussi un processus par rapport à toi, savoir jusqu'où tu peux aller?
Oui, enfin, moi je sais que j'aime bien justement quand un bouquin me bouscule mes idées préconçues, bouscule ma sensibilité. Et c'est ce que j'ai vraiment écrit le bouquin pour moi à la base. C'était des choses qui me plaisaient, donc je voulais aller au bout de ce qui me plaisait et qui en même temps me chamboulait moi.
Un peu la même question pour toi, Cédric. Dans tes romans, tu utilises le fantastique. Tu utilises la peur. Comment est-ce que tu la mets en scène? Toi, par contre, t'es quelqu'un qui ne montre pas tout, forcément.
Ça dépend. J'ai pas de règles préconçues. Moi, ce qui m'intéresse avant tout dans l'invention d'une histoire, c'est le côté divertissement. le côté plaisir du lecteur. Alors je suis pas rôliste du tout, mais je pense qu'il y a quand même des ponts entre les deux façons de créer. L'idée étant, en tout cas pour moi, d'inventer des personnages, des situations qui à la fois nous sortent totalement de la réalité quotidienne et qui nous fassent vivre par procuration des sensations incroyables, alors de peur, de frisson, de grande aventure, pour reprendre le Conan. Mais c'est vraiment ça. Et le côté horreur, c'est compliqué à expliquer en peu de mots. J'ai eu, notamment au début, dans mes premiers textes, des liens assez forts avec ce que peut faire aujourd'hui Morgane, dans le côté pas choquer pour choquer, par contre, mais ne pas se poser de limites et essayer de représenter des émotions, des choses qui m'intéressent moins, des facettes de l'âme humaine qui me fascinent. Donc du coup, c'est très psychanalytique, en fin de compte.
Il y a un peu de ça aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le lien, pour moi, il est assez évident. Et enfin, ce que tu... Pour reparler un tout petit peu de Morgane, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Et non, mais vraiment, il y avait un auteur, donc maintenant, puisqu'elle a changé de sexe, Poppy Z. Bright, hein, qui a écrit des
choses... Elle a changé de sexe,
ouais, c'est il maintenant. C'est il.
Ouais, non, c'est... Là, tu fais un choc, je suis une fan, et je n'étais pas au courant.
C'était j'adore. Ça fait quelques années maintenant.
Ah bon.
Mais ce qu'écrivait Poppy Bright il y a 15-20 ans, c'est exactement ce que fait aujourd'hui Morgane. Et ce que fait Morgane est au moins au niveau de ce que faisait Bright à l'époque. Et ça a été une influence pour moi au départ, aussi Bright, sur le fait de représenter, donc, comme je disais, des facettes très psychanalytiques de notre vie, de nos problématiques aussi personnelles. Parce qu'il y a, pour ouvrir un tout petit, pour une parenthèse dans ce que je dis, je pense que chaque genre de l'imaginaire a la faculté d'aborder des thématiques précises, en tout cas des angles précis de l'humanité. La science-fiction notamment aborde la société dans son ensemble, sur comment on s'organise, comment on réagit par rapport aux défis écologiques ou politiques ou autre chose. La fantasy, qui est pas trop mon truc, a davantage la capacité par essence d'aborder en fait la place de l'être humain dans l'ordre des choses, comparé aux forces de la nature, aux divinités, enfin, au cosmos, d'où les quêtes initiatiques. Et le fantastique, ce qui me fascine personnellement, donc le genre que je pratique, c'est un genre qui, par essence, parle de l'ego. C'est pour ça que je parlais de la psychanalyse, mais c'est où on met en abîme nos peurs, nos questions existentielles, mais vraiment très, très autocentré. C'est vraiment l'être humain, c'est l'horla de Maupassant. Quoi, et du coup, pour répondre clairement à la question, la raison pour laquelle l'horreur revient assez régulièrement dans ce que je fais, c'est que c'est pour moi une manière naturelle d'exprimer les choses... mais les obsessions qui tournent en boucle dans ma tête depuis des années. Et c'est, à mes yeux, la manière la plus efficace et en plus la plus fun, parce que j'aime ça, de démembrer des gens. Mais c'est pas que pour démembrer des gens, c'est pour exprimer des émotions profondes et des questions personnelles. Alors dit comme ça semble un peu bizarre, mais pour moi c'est vraiment évident. C'est pas anodin. Et le fait de mettre en image de manière plus grande que nature des choses qui dépassent du cadre me permettent d'aborder des thématiques qui me tiennent vraiment très à cœur.
D'accord. On discutera tout à l'heure peut-être de...
Oui, c'est très général ce que je viens de dire.
On verra sur l'utilité de l'ordessie, personnellement. Mais je voudrais te poser la question aussi sur le versant jeu de rôle.
Oui, le jeu de rôle s'inspire quand même de tout ce qui est littéraire et puis roman et film depuis très longtemps.
C'est moi qui te remercie.
Mais on n'a pas le problème est que les rôlistes sont des gens qui très souvent ont une culture justement de base sur le fantastique, l'horreur, etc. Au niveau film également, et que il est très 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 difficile à mon avis de les choquer. Alors par les choses évidentes, c'est-à-dire je suis désolée, mais que tu lues, par exemple, je prends un exemple, les monstres à tentacules avec des gros trucs roses et tout, ça me fait plutôt rigoler qu'autre chose. Et on est plutôt... il faut essayer de mettre au point des techniques pour leur faire peur de ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne comprennent pas, et les surprendre par « on n'avait pas vu ça venir ». Et là, il y a un sentiment d'effroi, puisqu'ils se retrouvent en danger parce qu'ils n'ont pas... vu quelque chose. Nous, on a des jeux où, bon, Z-Corp, c'est vrai que c'est des zombies, c'est... mais enfin, bon, aller canarder du zombie ou éventuellement les dégâts collatéraux, ça leur fait pas franchement peur. C'est pas... pas du tout là-dessus.
Est-ce qu'on peut se faire peur en jouant à un jeu de rôle ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Quand on joue à Cult.
Alors, Cult, pour moi, c'est pas de l'horreur. C'est ouais. Le problème. C'est que Cult, je trouve que c'est un jeu pratiquement optimiste. Puisqu'on est, dans un monde absolument horrible, on ne comprend pas, etc. Et on a une révélation. On est dans des anciens dieux qui ont été déchus. On peut revenir à notre divinité, ce qui est quand même un super espoir. C'est pas mal, quoi. Et bon, le chemin sera dur. Ça va être pas facile, mais il y a cet espoir au bout. Donc ça permet quand même d'avoir une possibilité d'avoir des sorts, d'agir sur ce qui se passe, même si c'est pas évident. Il y a des jeux que je trouve beaucoup plus dramatiques finalement, que comme Tulu par exemple, dont la base est quand même, on a été créé pour servir de bouffe à des dieux anciens extraterrestres, et il n'y a aucune porte de sortie possible, sinon la folie. Bon, je trouve ça nettement plus noir. Voilà. Ouais, c'est pas l'horreur pure et évidente qui peut marcher à la lecture dans les livres, ne marche pas automatiquement autour d'une table où on doit capter l'attention de 5 personnes et où il y a toujours la blague qui fuse, et etc. Donc il faut plutôt essayer de coincer, c'est plutôt de se sentir coincé, de se sentir impuissant, de se sentir attiré dans un piège ou avec des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Oui, on peut avoir très très peur à une table de JDR.
Ouais, je voulais te poser la question, comment on fait à un moment pour créer un climat pour que les gens arrêtent de manger des chips et déconner, quoi.
Finalement, faire plus des suggestions que de faire des descriptions et les laisser imaginer ce qu'ils veulent dans leur tête. D'accord. Jamais un MJ fera plus peur à un joueur que lui-même avec ce qu'il imagine.
D'accord, donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu arrives à concevoir l'univers.
Alors, il y a un univers qui est présenté.
Ouais, c'est ça.
Plus il est contemporain, plus il est proche de la vie réelle des gens, ouais. Plus il a de chances de faire peur.
D'accord.
Plus on est proche de son personnage, plus on risque d'avoir peur.
D'accord. Comment, vous deux les auteurs, les écrivains, comment est-ce que, justement, vous mettez en scène cette œuvre ? Quels sont les trucs, un petit peu, pour que le lecteur...
Moi, je rebondirais bien sur ce qui vient d'être dit, parce que ça m'évoque plein de choses, en fait. Parce que ça fait des débats qui sont très vastes, mais par rapport à Lovecraft, d'une part, oui. Par rapport aussi à la question que tu posais tout à l'heure de la représentation ou de l'indicible lovecraftien, qui sont des questions qui m'intéressent de manière fondamentale. Et du coup, je viens de réaliser une différence effectivement fondamentale entre la masterisation et la narration de fiction. C'est que... alors. Pour revenir à des choses alors importantes, alors sans me disperser trop, parce que je suis trop général souvent, je vais essayer de resserrer un petit peu. En littérature, il y a eu une première période historique où on considérait que les émotions intenses, telles que le mal absolu notamment, les choses trop pures, n'étaient pas représentables. C'était le fameux indicible lovecraftien. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, Sauron, on ne le voit jamais. C'était vraiment une conception littéraire qui était acceptée, qui était que pour faire peur ou les choses trop intenses ne pouvaient pas être mises en image ou abordées clairement. Dans les années 80, il y a eu certains auteurs qui m'ont servi de modèle et de maître absolu, dont Clive Barker, c'est pour ça que j'évoquais Cult, qui est dérivé de son univers, qui ont renversé ces codes-là et qui ont prouvé que la littérature pouvait représenter physiquement absolument tout. Et c'était une nouvelle approche. C'est un virage total dans la manière de raconter les histoires, qui aujourd'hui est prise pour acquis. Je veux dire, par rapport aux jeux vidéo, multimédia, on est abreuvé d'images, mais c'est assez récent en fait dans la manière. Et alors peut-être qu'un jeu de rôle que je connais pas, c'est toujours pas la manière d'aborder les choses pour toucher l'inconscient des gens. Mais c'est vrai que, et je finis là-dessus donc, quand j'écris et quand je veux décrire des choses, j'essaye de les décrire, y compris les fameux sentiments que j'évoquais tout à l'heure. J'essaie de les représenter physiquement, par des images, enfin, il y a plein de techniques narratives qui existent, qui sont des outils à nos dispositions pour faire ça, mais le but c'est que le lecteur ait une image précise de ce qu'on raconte. Et pour reprendre l'exemple de Clive Barker, il arrive dans un roman à représenter physiquement Dieu, par exemple, et c'est crédible. Et ça dépasse le cadre, encore une fois, c'est plus grand que ce qui est dit, mais c'est une image physique qu'il décrit, et on la voit, et on voit Dieu physiquement. Et Dernière chose, parce que c'est aussi quelque chose qui me paraît important, mon but quand j'écris n'est pas de provoquer le malaise ou de faire peur, ou de choquer pour choquer, ce qui est souvent un quiproquo dans certaines littératures. Alors c'est justement, on a peut-être une approche pour l'occasion totalement différente, mais jamais, une seule seconde, j'ai eu envie de choquer le lecteur. Il se trouve que certains lecteurs ont parfois été choqués par, quand je décris des mots en 3 bits ou des choses un peu décadentes. Mais le but, c'était pas ça. Le but n'était pas de choquer. C'était ou du délire, ou de l'humour, ou de poursuivre voilà, quelque chose d'absurde jusqu'à ses limites. Mais par contre, ça n'exclut pas qu'on peut provoquer la peur à certains moments. Mais c'est chez moi, en tout cas, ce n'est pas la recherche du dégoût absolu du tout. C'est pas la rébellion, en fait.
Oui, non, voilà. C'est pas...
Mais certains auteurs peuvent essayer de provoquer les gens, et je comprends ça, pour être vraiment s'opposer en étant rebelle. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment l'inverse. Mon but, quand je raconte, c'est d'être divertissant.
Je pense que tout le monde n'a pas non plus le même seuil de dégoût. Moi, j'ai lu du Poppy Z. Bright, et puis il y a eu un roman sur lequel j'ai eu du mal à passer la fin.
C'était lequel?
Kadarevski.
Ouais.
La fin, j'ai eu énormément de mal.
C'est beau pourtant. Moi, j'ai trouvé super beau en fait ce bouquin.
Ouais, mais enfin bon, je sais pas. J'ai
poésie,
très
il y a une poésie.
Mon bouquin, c'est sans encre de toute façon. Mais j'ai eu vraiment du mal parce que pourtant, bon, je suis pas très facilement, je suis pas facile à choquer. Je lis beaucoup de choses, mais là, ça passait pas. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé Poppy Z. Bright parce que c'est pas facile à aborder. Tout le monde n'a pas le même seuil de goûts. Et nous, en tant que meneurs de jeu, le plus important, c'est de savoir avec qui on joue au départ. Et on élimine énormément de choses de nos parties parce qu'il y a des choses qu'on est... D'abord, j'estime qu'on ne peut pas jouer avec. Et il y a des choses où on peut... c'est plus qu'un livre. Hein. Les gens ont l'impression de vivre quelque chose réellement, parfois. Et on peut... sans le savoir, déclencher des rappels de, je sais pas si moi j'ai par exemple, on évite certains sujets, enfin moi personnellement, hein, et on les censure carrément dans les livres qu'on édite. Je l'ai fait pour Little Fears, où à un moment il y a des rois qui persécutent les enfants, et il y en avait un dans l'édition anglaise qui était le roi de la pédophilie, enfin le roi de la douleur, mais c'était ouvertement pédophile. J'ai estimé que ça n'avait pas du tout sa place dans un JDR. On l'a traduit. Je l'ai dit ouvertement que c'était téléchargeable sur mon site s'il le désirait, et je ne l'éditais pas comme ça. On l'a remplacé par un roi de la douleur, mais qui n'abordait pas ce genre de choses. Et parce que j'estime qu'à une table, on ne connaît pas systématiquement complètement les gens, et vous pouvez réveiller des choses très douloureuses et très graves. On évite également le en général. Je sais qu'il y a un problème là-dessus. Il y a des gens qui s'affrontent sur Internet à ce sujet-là au niveau du jeu de rôle. Moi, j'évite de mettre truc lié au viol, parce que j'estime que toute agression sexuelle ou ce genre de choses n'a pas sa place à une table de jeu de rôle. On peut faire un tas de trucs qui sont jugés parfaitement horribles, mais là on peut, sans le savoir, réveiller des choses qui sont pas... c'est pas à nous de le faire. Si ça veut être abordé, c'est pas une table de jeu de rôle. Je sais que il y a une polémique énorme sur Internet à ce sujet. Enfin, nous on est là-dessus très... Après, il y a tellement de films sanglants, de choses que je trouve c'est moins grave d'aborder, et que les rôlistes en général abordent avec plus de facilité. Genre à la tête coupée, ou des massacres, des choses comme ça. Ils ont pas de... Je me rappelle, la première fois que je faisais jouer à Cult, j'avais fait un scénario qui était écrit déjà. Et à un moment, ils sont invités dans un vernissage, et quand ils arrivent, tout le monde a été massacré. Et la description, c'était, mais tout le monde démembré, massacré, je sais pas, une cinquantaine d'invités, quatre coins de la pièce, du sang partout, etc. La seule réaction que j'ai eue à ma table, c'est, morbleu, je vais mettre du sang sur mes chaussures. Ah ouais, ok. J'ai dit, ça va pas passer avec eux, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je les ai attaqués sur leur personnage. En les ridiculisant, en les humiliant, en mettant des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et là, on les a atteints. Je pense que dans notre société, il y a trop d'images à la télé, jeux vidéo, etc., et qu'on a une habitude. On commence à avoir une habitude du pur sanglant, qui fait qu'à une table de jeu de rôle, ça ne marche plus. Ou, bon, alors peut-être des gens qui commencent, mais les vieux rôlistes, je trouve qu'il y a une... une habitude à ce niveau-là.
C'est intéressant parce qu'on parle des limites, c'est-à-dire que y a, tes limites sont aussi des limites sociales, des tabous sociaux assez forts, ou du moins des choses condamnables.
En fait, on a des réactions à une table de jeu de rôle parfois quand on est vraiment dans une partie qu'on peut ressentir soi-même vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours se dissocier complètement du personnage. On est là, on a peur, voilà, comme dans une séance de cinéma où on s'identifie peut-être à, bon, à un film, sauf que là, c'est à nous d'agir. On n'est pas dans un film. Donc, on est complètement dedans. Et je trouve qu'on peut provoquer des choses. Alors, on a eu peur, oui, mais à la fin, on a gagné, c'est bon, on rentre chez soi, on ne fera pas de cauchemar, c'est bon. Mais quand on touche certaines zones très privées des gens, je trouve qu'on va trop loin. On peut le faire. Moi, un roman, bon, des trucs de Poppy Zadbois, je prends toujours cet exemple parce qu'on le connaît tous les trois, et puis voilà, on est. Mais on pose le livre. Moi, j'ai posé Cadavre Exquis. J'ai dit, bon, bah, je le finirai plus tard quand je serai un peu plus calmée. Mais ça m'a pas. Ça n'a pas changé quoi que ce soit. Je ne me suis pas sentie vraiment mal à l'aise de façon durable, ou ça m'a pas. Par contre, je trouve qu'à une des parties de JDR, ça peut arriver, et donc il faut très bien connaître les gens avec qui on joue, savoir jusqu'où aller.
Ce que je voulais dire, en fait, c'est que socialement, autant effectivement on a des films avec des massacres ou des jeux vidéo, mais les points que tu touches et tes limites, c'est aussi des points où socialement, ça pose problème, mais c'est des sujets très délicats, quoi. Le viol, la pédophilie,
ouais,
c'est un reflet.
Oui.
Tu vois, je veux dire, c'est que quelque part, tes limites sont aussi un reflet.
C'est aussi culturel, oui.
C'est culturel.
C'est culturel. Et d'un pays à l'autre, les valeurs morales ne sont pas les mêmes. Enfin, j'ai l'exemple d'un de mes romans qui vient d'être traduit en anglais, ouais, pour le marché américain. Et il y a une scène où une personne vient me porter plainte pour viol, et le flic voit qu'elle ment. Et donc il y a du style indirect libre, où on comprend pourquoi, parce qu'il est habitué à ce que des femmes... Mais ça, c'est le reflet de ce que des flics français m'ont dit. Des nanas qui viennent porter plainte et en fait c'est juste qu'elles avaient un amant, elles veulent pas que leur mec leur pète la gueule, ou que c'est un ex qu'elles ont envie de faire chier, il y a plein de choses, et du coup le flic ne prend pas sa plainte, enfin fait un mot au parquet en disant que c'est pas recevable parce qu'elle ment. Et pour la traduction aux États-Unis, la traductrice m'a dit, mais ça va pas passer, n'importe quel lecteur américain lit cette scène, il ferme le bouquet en disant, mais c'est quel connard cet écrivain et ce flic. Et bon, j'ai un peu insisté, je crois que la scène est à peu près restée la même quand même, parce qu'on a eu une petite discussion. Mais effectivement, d'un pays à l'autre, les seuils ou les références ne sont pas du tout,
oui,
les mêmes.
Il y a que l'horreur, c'est culturel.
C'est ça.
Triste.
C'est pas comment, j'ai pas lu la traduction.
Quand je parle de jeu de rôle où il se passe ce genre de choses, je parle que du jeu d'horreur, d'épouvante. Il est clair que la question ne se pose pas, voire très rarement, quand on fait du Medfan ou qu'on joue à Star Wars. Hein, c'est vraiment dans des jeux très spécifiques où on joue sur le psychologique, où on joue sur l'horreur. Pas du tout dans des parties du Seigneur des Anneaux, excusez-moi, ma voix se barre, ou des parties de Donjons et Dragons, toutes simples, où il y a vraiment... On n'aborde pas ce genre de sujet, c'est très loin du... On a plutôt envie de trouver des trésors, faire des XP, découvrir des donjons, ce genre de choses. C'est très rare que ça aille plus loin.
D'accord. Voilà. Morgane, sur la question des limites, toi, effectivement, tu démembres allègrement, et puis les enfants aussi prennent un petit peu dans la... quelles ont été, toi, tes limites? Est-ce que c'était vraiment nos limites, ou est-ce qu'il y a des choses... mine de rien, t'as pas mis.
Non, les limites, ça a été que la violence serve toujours l'histoire, quand même. Enfin, j'avais plusieurs scènes qui étaient des délires personnels que j'ai fini par couper.
Délires personnels.
Oui, mais en fait...
Ça promet. Ce qui restait, ça promet, quand même.
C'est-à-dire. Non, mais enfin... après, en fait, quand on écrit... je trouve que c'est bien, bah, ça permet quand même énormément, parce qu'au cinéma, c'est vrai qu'on est, comme tu disais, bon, il faut mettre une image pour que ça touche le lecteur. C'est vrai qu'au cinéma, on est arrêté par l'image. Et ce qui est bien quand on écrit des choses très très violentes, c'est qu'on peut aller dans la sensation. Et c'est ça, quelque part, qui fait vraiment peur. Et ma limite, en fait, s'arrête à la sensation que le lecteur peut appréhender. C'est-à-dire, par exemple, un exemple assez bateau, mais... une morsure de vampire, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, pour la décrire, donc je vais prendre des sensations qu'on peut éprouver par rapport à la drogue, par rapport au viol, des choses qui peuvent peut-être plus parler aux gens et qui rendront le texte beaucoup plus parlant pour le lecteur.
D'accord.
Donc, je pense que ma limite, c'est la sensation. Voilà, je vais pas au-delà de la sensation.
Une petite question sur la mise en scène. Alors pour le coup, quand on tourne une page de vos romans, qu'il y a les décors démembrés, est-ce qu'il y a des techniques de mise en scène? Parce qu'évidemment, si le bras pendouille dans un mixeur, ça n'a pas la même valeur que s'il est caché sous le tapis, quoi. Comment est-ce qu'on met en scène un petit peu sur ces mots? Est-ce qu'il y a une approche particulière en termes littéraires?
Une mise en scène particulière, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que d'abord on commence par l'image parce que faut que la personne puisse se représenter, puis ensuite on arrive dans l'intériorité, donc les sensations, c'est comment dire.
Tu vois, mon idée c'est un peu comme au cinéma où effectivement la manière dont on place la caméra change évidemment le contenu et l'effroi qu'on peut ressentir ou pas. Est-ce que vous, quand vous créez des choses, pareil, comment vous mettez votre caméra, quoi?
Moi, je pense que des phrases courtes, c'est plus percutant déjà que des grandes descriptions avec plein de virgules, et ça va beaucoup plus à l'esprit. Il faut aller à l'essentiel et sans fioritures, je pense, pour représenter les gens.
Ouais. Alors moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je considère qu'il n'y a pas de règle. Et que, vraiment, parce qu'on pose la question souvent, il n'y a jamais la moindre règle en narration. Je pense que ça dépend de ce qu'on a envie d'exprimer. Et il y a des techniques, il y a plein de techniques différentes. Et on en invente de nouvelles en permanence. Mais une technique va marcher dans une situation précise, avec un faisceau de choses qu'on a mis en place, de progression, de fléchage, y compris d'une phrase à l'autre. Donc ça peut marcher une fois et pas marcher dans un autre cas. Et puis, personnellement, j'hésite pas à réécrire 3-4 fois la même scène, jusqu'à avoir exactement un feeling qui, à mes yeux, en tout cas, fonctionne. On ne sait jamais si ça va fonctionner à 100%, mais. Pour l'horreur, ça dépend vraiment de la scène et de ce que j'ai envie de faire passer. Et ça peut être des phrases très courtes, ça peut être un changement de temps, ça peut être des phrases nominales sans verbe, enfin, ça peut être un changement de point de vue, des phrases très longues et ampoulées. Ça dépend vraiment de la texture. En fait, quand on écrit, donc du coup pour la masterisation, c'est surtout de la voix qu'on a, oui. Mais l'outil principal d'un auteur, c'est les mots et la succession des mots va provoquer des images mentales, et je travaille beaucoup là-dessus, et c'est un énorme travail en fait pour qu'au final le lecteur ait l'impression, enfin, oublie totalement qu'il est en train de lire, qu'il ait des images, qu'il ait des sensations, mais c'est un tour de magie absolu, parce qu'au final c'est une feuille blanche avec des taches noires dessus, et on voit, et voilà, et on voit des scènes horrifiques, on voit les corps démembrés, le sang qui goutte, on a l'odeur qui monte, enfin il y a toutes les sensations qui sont engagées, mais c'est un artifice total. Et en ce qui me concerne, c'est le fruit d'un travail qui est énorme, long, laborieux, que j'adore, mais qui est super douloureux.
Pareil.
Nous, en fait, la création n'est pas pareil, puisque nous, on doit faire un manuel.
C'est ça.
En fait, c'est le meneur de jeu qui va interpréter avec les bases qu'on lui donne. C'est lui qui va écrire, enfin le dire oralement, ou l'écrire, parce que certains écrivent leur scénario. Mais nous, on doit leur donner des bases. C'est-à-dire que c'est extrêmement structuré. On doit plutôt penser à de quoi ils vont avoir besoin pour écrire. Un peu comme si on prenait une feuille de papier, des stylos, etc. Leur mettre le matériel à disposition. Donc, c'est beaucoup plus froid. On essaie de mettre des petites nouvelles d'ambiance, très souvent, pour donner une idée au meneur de jeu de comment ça peut se passer. Mais enfin, à l'arrivée, c'est lui qui écrit son propre jeu avec les données. C'est-à-dire, on lui dit, ça va se passer à tel endroit, voilà les protagonistes, voilà ce que vous allez jouer, voilà ce les monstres, voilà les règles sur lesquelles vous allez vous appuyer pour que les gens puissent agir dans le jeu. Et ça s'arrête là. Et c'est lui qui va raconter, dont ils y mettent énormément de leur personnalité.
Est-ce que quand tu masterises, pareil, il y a des techniques, on parle de voix, est-ce que tu fais attention à baisser la luminosité?
Bah dans les jeux dits d'horreur, on essaye quand même, oui, de ne pas mettre des lumières super vives, d'abord parce qu'on joue très souvent la nuit, donc ça fait très mal aux yeux au bout d'un moment. On met un petit peu de musique d'ambiance, hein, on met, oui, on peut jouer avec ça. Dernièrement, on a beaucoup joué avec les tablettes, avec les projections de certaines images ou de fond sur la télé, ce genre de choses pour dire regardez où vous êtes, etc. Mais on s'en sert aussi pour dire bon ben voilà, là c'est Google Maps, vous êtes au centre de New York, voilà ce qui se passe, vous êtes telle rue, etc. Et les gens commencent à se repérer comme ça. En horreur, on essaye plutôt de les laisser plus dans le flou, des rues qu'ils reconnaissent pas, des choses qui sont plus difficiles à gérer pour eux que du jeu pur où il y a un plan et on avance les figurines. C'est un petit peu plus... Parfois, il vaut mieux mettre une musique qui passe derrière, vraiment très très fond, voire presque inaudible, pour pas casser justement. C'est le meneur de jeu qui doit mettre l'ambiance avec ses joueurs, puisqu'ils sont quand même très participants.
Oui, parce que du coup, la différence finalement fondamentale, hein, parce que là, ça m'y fait penser, c'est que quand on écrit de la fiction, c'est un petit peu comme quand on réalise un film finalement, ce qui est l'essentiel pour provoquer toutes les émotions, donc y compris la peur, c'est le point de vue. Et si un auteur, justement, quand je parlais des phrases, aborde n'importe quelle scène, mais d'une certaine manière, ou si on montre un gobelet sur une table, ou s'il y a une raison, c'est pas innocent, c'est comme au cinéma quand il y a...
Voilà,
Non mais c'est ça, on veut que le lecteur ait tous les sens focalisés sur quelque chose de très précis parce qu'on veut l'amener quelque part. Jamais rien n'est innocent, enfin, si on a bien fait notre boulot, rien n'est laissé au hasard. Et le lecteur, en fait, le travail du... Contrairement justement à un jeu de rôle où il y a une interaction permanente, et du coup le côté paradoxal de la littérature, c'est que tout est contrôlé par l'écrivain, mais le résultat... Là, c'est pour ça que je parlais de la feuille de papier. Le résultat n'existe que dans l'esprit du lecteur. Donc, il y a quand même cette relation-là. Et les images qu'on va réussir à titiller, parce qu'avec notre arsenal d'outils à notre disposition, on essaye de créer ces sensations, ces personnages, tout ça. Mais la réalisation de tout ça, qui n'existera uniquement que le temps de la lecture dans la tête du lecteur, sera radicalement différente d'un lecteur à un autre. Et chaque lecteur, il verra ce qu'il a en lui. Là, c'est la guerre d'étoiles que je cite, mais c'est un peu ça. Et je le vois au niveau des personnages. Quand je décris des personnages, j'essaye de faire attention de ne jamais... Je parlais du visuel tout à l'heure. J'essaye de décrire de manière très précise, mais que ce soit interprétable à l'infini, et y compris mon héroïne, par exemple, récurrente. Certes, elle a les cheveux blancs, les yeux rouges, mais je la décris de plein de manières différentes. Je parle des boucles de ses cheveux, de plein de choses. Mais de nombreux lecteurs me disent que je l'ai parfaitement décrite, qu'ils la voient physiquement parfaitement. Et là, je leur dis oui, mais alors est-ce qu'elle a les cheveux longs? Est-ce qu'elle a les cheveux courts? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Et là, tous, et chaque lecteur, c'est là que je vois, se sont créés un personnage, mais des fois qui n'a rien à voir. Physiquement, c'est pas du tout la même chose. Mais ils ont l'impression que c'était décrit comme ça. Donc du coup, il y a quand même ce rapport à l'imaginaire.
Je pense que c'est un peu pareil dans le jeu de rôle. On ne peut pas le faire, c'est un peu dommage. Ce serait une expérience amusante, faire une partie de jeu de rôle. Oui, que chacun puisse projeter l'image qu'il a eue à un moment donné de ce qui se passe. Et je pense qu'on ne verrait pas du tout la même chose.
C'est les aveugles et l'éléphant.
Un petit mot sur l'utilité. Tu as commencé à y répondre tout à l'heure, puisque vous me dites à chaque fois l'horreur a une utilité. Est-ce que c'est révélateur des personnages et de l'humain quelque part? Est-ce que quand on démembre quelque chose,
c'est le but? Enfin, là je vais répondre super simplement parce que je monopolise un peu parfois la conversation, mais la littérature parle de l'être humain, de nous, donc oui, c'est le but, il n'y en a pas d'autre.
Moi c'était dans les veines. J'ai une héroïne adolescente qui a plein de problèmes et elle se retrouve face à un vampire en fait qui va lui sucer la vie, la détruire psychologiquement. Là. Et enfin, c'est juste la métaphore d'une relation amoureuse complètement ratée. Et enfin, je veux dire, pour être détruit physiquement, il n'y a pas besoin qu'on vous suce le sang ou la vie ou quoi que ce soit. Et enfin, c'est vraiment métaphorique de ça. Enfin, pour moi, le fantastique, c'est très bien. Je suppose que tout le monde a vu Buffy, mais enfin, c'est quand Buffy se fait couche avec Angel, donc son copain vampire, et puis il perd son âme quand ils couchent ensemble, il revient, il est très méchant, il tue toutes ses copines. Et voilà, enfin c'est juste, voilà, t'as couché avec le mec, il te laisse tomber, c'est un vrai salaud. Et enfin, la fantastique, c'est ça, c'est super bien résumé par ce truc complètement grotesque.
Mais est-ce que c'est un accélérateur? Parce que ce que tu racontes, sont des sentiments très humains, c'est très bon. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on utilise le fantastique?
C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus visuel. Parce que, je suppose que les amateurs de fantastique, c'est des gens qui sont un petit peu déçus par la littérature plus généraliste, qui ont envie de voir des choses qu'ils ne voient pas dans leur quotidien, mais que si tu vas trop loin, du coup, ça les sort tellement de leur quotidien qu'ils ne s'y retrouvent plus. Donc, le fantastique, ça permet vraiment de doser les choses, et c'est en ça que c'est très intéressant.
Ben, moi, j'ai une opinion aussi très tranchée là-dessus, parce que c'est un vieux débat. Est-ce que l'art devrait être le reflet de la réalité? Ou est-ce que ça devrait justement, comme je dis en permanence, dépasser du cadre? Pour moi, la réponse, elle est évidente. Et c'est donc c'est un gros débat sur l'art, l'art moderne, le foutage de gueule où on achète un chiotte et on le met dans une pièce et on dit c'est de l'art. À mes yeux, donc encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais si l'art devait être uniquement la matérialisation conforme de la réalité, ça voudrait dire que la réalité est plus intéressante que l'art. Donc l'art n'a aucun sens. Donc voilà. L'art, c'est quelque chose qu'on ajoute à la réalité pour mieux la comprendre, pour se poser des questions, sans forcément apporter les réponses systématiques, mais ouvrir vers quelque chose de plus grand que nous, parce que notre compréhension étriquée du monde dans lequel on vit.
Tu fais du thriller plutôt fantastique, mais pourquoi fantastique ?
Parce que, par rapport à
l'histoire, est-ce que tu pourrais écrire un polar classique ou un thriller sans éléments?
Si ça s'imposait comme ça, je ne me suis jamais posé la question. Donc j'écris ce que j'ai envie de lire. Donc, ça, c'est la réponse bateau que tous les auteurs vont donner, mais c'est vraiment la vérité. C'est. Parfois, je pars sur une intrigue purement polar, et c'est aussi ma façon personnelle d'appréhender la réalité. Parce qu'on vit dans notre tête, le monde on le perçoit, c'est pareil, on a des sens, d'accord, on sait que le monde est physique, mais tout ce qui se passe à chaque seconde de notre vie dans notre tête, c'est fantastique. On a des images, on a des choses qui nous traversent, des sensations dont physiques, de chaud, de froid, on se projette, le monde il est fantastique, et en plus, et même dans la vie réelle, on vit des vies totalement différentes, le même moment est vécu de manière radicalement différente, par les mêmes personnes en présence. Donc, du coup, le fantastique et le surnaturel me semblent, et les superstitions qui peuplent notre vie, on a tous peur du noir à un degré ou à un autre, on fait tous des rêves prémonitoires en se disant après mes noms, mais si, on hésite à passer sous des échelles ou des choses comme ça. Enfin, c'est la raison a quand même ses limites, et on vit dans un monde qui est beaucoup plus vaste que ça c'est clair, dont on a une perception qui est forcément limité. Et par l'art, essayer d'aborder ces choses. C'est un peu comme les films de David Lynch, que vous avez peut-être tous vus, où on constate que la vie, le rêve est parfaitement compréhensible, mais la vie réelle, on n'a jamais tous les éléments, on ne sait pas ce que pensent les autres autour de nous, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, ce qui s'est passé. Donc il nous manque 99% des éléments pour comprendre le monde dans lequel on vit, donc la réalité est un peu incompréhensible. Et de réussir à créer cette étrangeté-là dans la fiction, ça me fascine. C'est pour ça que j'écris ça.
Un peu la même question. Est-ce que l'horreur est un accélérateur de sentiments humains
Je sais pas. J'ai l'impression que ça met dans un état d'urgence. Ouais. Quand on fait jouer des... Alors, il y a toujours des moments où dans les parties de jeux de rôle, on revient à des choses plus banales. Pour justement un petit peu calmer la pression, et puis les personnages font ce qu'ils ont à faire, je sais pas, téléphonent à leur maman, font ce qu'ils veulent, mais et revenir ensuite, pour ça les mettre dans un sentiment d'urgence où toutes les réactions finalement deviennent instinctives, et c'est ça qui à mon avis est intéressant, parce que les monstres, Je sais pas comment on réagirait dans la réalité si on voyait un monstre Lovecraft se pointer là. Je pense qu'on serait tous morts de rire et on lui demanderait d'enlever son déguisement. Je sais pas. Je pense qu'on a passé peut-être avec la culture fantastique à laquelle on s'est habitué. Je pense qu'on n'est plus aussi et que finalement l'horreur est devenue très personnelle. Il y a une horreur culturelle, c'est vrai, qui effectivement change suivant. Mais il y a une horreur personnelle qui se nourrit de notre histoire, de ce dont on a peur personnellement. Et ça peut changer d'une personne à l'autre. Donc si on les met dans l'urgence, ces gens-là vont aller chercher dans cette urgence-là ce qui les ennuie finalement, les déséquilibre, leur font finalement fait peur, et vont réagir de façon très différente. Et quelquefois, c'est juste... Ça peut être juste une impression qu'il y a quelque chose qui vous menace, mais on ne sait pas trop quoi. Et on n'arrive pas à le savoir. On pense que du coin de l'œil, on voit quelque chose, mais il n'y a rien. Et ça inquiète beaucoup plus, à mon avis. Enfin, nous, à nos tables de jeu de rôle, hein, c'est très difficile, je pense, dans un roman, de rester très longtemps sur une sensation de... Il n'y a rien, mais il y a peut-être quelque chose. Enfin, ça peut peut-être lasser.
Il nous reste une petite minute.
Est-ce que c'est le point final quand on montre le.
Pour rebondir sur justement cette fameuse menace invisible, quand on est en étude de lettres et qu'on vous présente le fantastique la première fois, on dit le fantastique, c'est ce qui vous fait douter. Mm. C'est cette fameuse menace invisible du monstre sous le lit, où on sait qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. Pourtant, la nuit, quand on est petit,
on va voir, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. D'un doute.
C'est la prudence, on ne sait jamais.
Pendant très longtemps, si on prend par exemple les Stephen King, il joue sur cette menace invisible, cette porte qui grince, ou si on prend la nouvelle de la veste du diable, où le type ne sait jamais si c'est lui qui devient complètement fou et démoniaque, ou si c'est la veste qu'il porte qui le rend fou. Finalement, c'est l'essence même du fantastique. Je pense que dans les romans aussi, même si maintenant on est plus dans le visuel, dans le fantastique horreur, plus dans le gore finalement, que vraiment dans le fantastique psychologique, ça reste cette menace du voilà, on va lire un bouquin où les gens sont démembrés.
Mais les deux sont pas incompatibles. Hein.
Oui, voilà.
C'est pas ça, non, peut, mais... ça peut se succéder.
Dans le sens où le malaise,
oui, pareil.
C'est quelque chose où aussi c'est possible, c'est déjà arrivé. Il y a des cas, là c'est dans un livre, on le lit, on le pose, c'est fini. Mais si le soir en entrant dans la rue on croise un type chelou, on va y repenser. Et il y a ce malaise.
C'est le but.
C'est le but. Et ça reste là-dedans. Je pense que justement cette menace invisible.
Il y a aussi la menace invisible où on peut dire par exemple, effectivement, on est dans une rue obscure, on peut supposer qu'il y a un truc qui vous attend dans un coin, etc. Ou absolument ne pas pouvoir mettre de peur dessus. Je crois que c'est encore pire. Se dire, oh là là, il y a un truc qui déséquilibre, il y a quelque chose qui va se passer. Mais. Ne pas pouvoir dire sous mon lit il y a un monstre, parce que finalement déjà dire qu'il y a un monstre, c'est déjà l'identifier.
La maison qui craque, on sait pas ce qu'il y a au-dessus.
Voilà.
Et puis on peut démembrer des gens et regarder sous son lit, quoi.
Ce que je pense, c'est que quand on reprend l'exemple, on démembre des gens, du coup l'invisible en fait c'est peut-être la vraie motivation pour démembrer des gens, et finalement l'invisible ça devient l'humain. Et qu'est-ce que ça pourrait renvoyer la réalité à quelque chose de vraiment horrible qui n'arrive généralement pas trop dans la réalité, et finalement dans le roman peut-être un peu plus moderne la situation est inversée.
Voilà. Je crois que c'est ce que disait Clive Barker, alors je veux pas le trahir, mais qu'en gros dans les slashers, en fait, toutes les choses un peu de bas de gamme, on prend des ados et on les massacre un par un, alors que lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment donc rassembler les ados, mais avec des personnalités, des histoires personnelles, des enjeux, et après, on les massacre. C'est la différence.
On apprend à les connaître, voilà. On les aime bien et on les massacre.
Il faut aimer ses sons et on les tue.
C'est ça.
Il y a, juste pour revenir, Stephen King qui dit... Quand il y a un accident sur autoroute, 9 personnes sur 10
ralentissent.
De l'autre côté ralentissent. Il dit j'écris pour ces 9 sur 10. Quoi.
Alors, c'est côté, comme ça. Et côté voyeur.
Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous faire peur ? Évidemment, vous voulez qu'on ait peur. Pourquoi ?
Alors, parce que c'est du plaisir. Parce qu'on a la sécurité de savoir. Enfin, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. C'est parce qu'on sait que ça ne nous arrive pas à nous déjà. C'est pas nous qui sommes en train d'être démembrés. Oui, le lecteur. Et c'est l'envie de vivre des émotions fortes sans danger, parce que la peur dans la vie réelle c'est atroce, on ne veut pas vivre de la peur au quotidien, on ne veut pas être violé, battu dans un pays en guerre, en fait, des choses envahies par des extraterrestres et étudiées et découpées en morceaux, mais de le voir, c'est aussi une catharsis pour évacuer certains stress ou angoisses personnelles. mais avec toujours cette sécurité, on sait que c'est pas vrai. Et justement, et du coup,
et ça n'arrive pas à soi.
Et justement, c'est le fameux reproche qui a été fait, notamment au jeu de rôle, hein, qui est idiot, hein, mais que les gens qui sont pas capables de faire la différence entre la fiction et la réalité,
c'est qu'ils ont déjà des problèmes.
Voilà.
Avant d'arriver au jeu de
voilà.
Non, mais ils ont déjà des problèmes.
Je parlais des détracteurs, oui. qui sont pas
général,
capables de faire la distinction.
Ouais, à une table de jeu de rôle, on peut avoir peur, oui. On peut se sentir mal à l'aise, on peut paniquer, on peut faire un tas de choses ou ressentir un tas de choses. Quand la lumière se rallume et qu'on va se faire un café et qu'on discute avec les copains, c'est fini.
Mais je parlais des détracteurs, hein,
oui,
voilà, des gens qui critiquent parce que ces gens ne sont pas capables de voir la différence.
Mais c'est des gens qui, en général, avaient d'énormes problèmes personnels, largement en dehors du jeu de rôle. Mmh. Et qu'à ce moment-là, un meneur de jeu un peu... D'ailleurs, à mon avis, ils avaient déjà été virés de table de jeu de rôle. Parce qu'il y a des comportements qu'on reconnaît et à qui on dit « Oula, toi... » va en parler à un psy et on reverra après. Parce qu'il y a vraiment des gens, mais comme à une partie de poker, comme à n'importe quelle activité, il y a des gens extrêmement... moi, j'ai rarement croisé des dingues dans le jeu de rôle. Vraiment. Vraiment. Et ils n'étaient pas que dans le jeu de rôle. Ils allaient... ils avaient des...
Hein, il était dingue et il est du jeu de rôle.
Et voilà, on n'a pas de détecteur de gens mal dans leur peau à l'entrée des magasins de jeux de rôle, hélas.
C'est juste pour rebondir justement sur. On sait que c'est pas réel, est-ce que c'est pour ça que dans le JDR, justement, quand on arrive sur une scène de massacre, ça ne touche plus les joueurs parce que
c'est pas eux, ils y ont échappé. C'est un peu la même chose que quand pendant des siècles, les gens allaient voir les exécutions publiques atroces en place de grève et voir dans les maisons autour. Demander à avoir des prostituées pour s'envoyer en l'air en regardant les gens se faire découper en place publique. C'est le truc, c'est atroce, hein, mais c'est hélas humain. Je pense que et dire c'est pas à moi que ça arrive, moi je suis vivant. Et quelque part, je pense que c'est ce qui fait que tout ce qui ne t'arrive pas à toi, une table de jeu de rôle, tu as ce truc de dire oh, pouf. C'est lui qui a été découpé, c'est pas moi.
Est-ce que quelqu'un a une autre question pour... J'ai une dernière question avant qu'on vous relâche. Pour la création, comment ça se passe? Est-ce qu'on écrit une bonne scène d'horreur l'été quand il fait beau, que les oiseaux chantent et qu'on est de bonne humeur?
Pourquoi? Au contraire.
Non, mais est-ce que... Vous voyez ma question, j'ai un peu rigolote, mais est-ce qu'on se met dans l'ambiance, en fait?
Oui.
Oui.
Ah ouais. Vas-y, je t'écoute.
Moi, j'avoue que plus je suis pas bien, plus c'est horrible. Enfin, c'est vrai que oui, je vais attendre d'être dans un. Quand je sais que je dois écrire une séquence d'horreur, je vais attendre d'être dans un état d'esprit un petit peu moins joyeux que d'habitude pour pouvoir vivre en même temps que j'écris et ça, avoir le feeling pour que ça soit efficace. Parce que je sais pas comme toi, je sais pas travailler, retravailler. Pour écrire plusieurs versions, c'est j'attends d'avoir le bon feeling, d'être vraiment dans l'état d'esprit. Et puis j'y vais, quoi. Et puis généralement, bon, après je le touche évidemment, mais enfin, soit il y a un premier jet, soit je sens qu'il sortira pas et je le fais pas.
D'accord.
Tout
dans l'ambiance.
Moi c'est organique, donc oui, ma façon de travailler est totalement physique. Hein, donc je me. Mais c'est le paradoxe absolu de ce boulot de créer des choses à la fois qui n'existent pas et pourtant qu'on est en train de créer de toutes pièces. Pour l'expliquer plus simplement, je peux écrire n'importe où, n'importe comment. J'ai écrit la moitié d'un livre aux Antilles, au bord de la plage, enfin des trucs, des choses glauques. Mais il y a un investissement émotionnel qui se fait malgré moi. Enfin, j'ai beau parler de ce recul et de savoir que ce sont des techniques pour arriver à un but. Il y a un moment donné où, et c'est là que je sais que ça marche, c'est que moi-même je suis aspiré par ce que je suis en train de faire. Et ça arrive à une autre question qui est celle de l'autocensure. Ça m'arrivait rarement parce que, comme me disait Morgane, je considère que les scènes à la fois porno, très sanglantes, sont indispensables si elles sont des moteurs narratifs. C'est-à-dire que si on coupe ces scènes-là, le roman n'a plus aucun sens. On retrouve ça dans certains mangas. Je pense par exemple à un vieux truc qui s'appelle Urotsuki Doji, avec justement des démons à multiple sexe. Mais dans la version censurée qui était sortie, toutes les scènes vraiment porno avait été coupé, sauf que pendant ces scènes-là, c'était des explications, c'était des moteurs narratifs. Donc l'histoire n'avait plus de sens parce que ces scènes-là expliquaient, en fait, c'était des éléments de scénario qui étaient indispensables à la compréhension. Donc voilà, ça c'est, c'est la manière pour moi de mettre ces scènes-là, c'est qu'elles ont un sens pour l'histoire. Non seulement elles ont un sens en tant que telles, mais en plus dans le cadre du récit, ce sont des, comme je dis, des moteurs, des ressorts narratifs. Et parfois, je me rends compte, c'est arrivé pour un roman notamment il y a un an, qui était donc le premier sang, où, sans rentrer dans les détails, mais il y a un sacrifice de petits caniches, tout mignon, avec des gros yeux. Et j'avais écrit la scène.
Justement.
J'ai écrit cette scène, j'ai mis une journée à écrire cette scène. Où c'était, mais atroce, le caniche était dépecé dans tous les sens, parce qu'au début, là, la personne ne voulait pas, et en fait, elle se prend au jeu. Ça devient super gore. Et du coup, même au niveau du scénario que je commençais à écrire au fur et à mesure, elle obtenait une super puissance, elle pouvait tordre du métal à main nue, sauf que le lendemain, elle avait effectivement la conséquence, elle s'était blessée, tout ça. Écrire ça m'avait mis tellement mal à l'aise. Pourtant, c'est tout bête, c'est pas non plus, voilà, c'est juste un chien qui s'est tué. Ça m'avait mis tellement mal à l'aise. Et le lendemain matin, en relisant ma scène, j'étais tellement à nouveau, voire encore plus mal à l'aise parce que j'avais écrit, et réalisant que ça n'avait mais aucun intérêt pour l'histoire, pour la tension dramatique qui était déjà très bien. Là, c'était juste du gratuit. J'avais dépassé la limite et j'étais dans le gratuit. Et donc, j'ai coupé tout ça. Et du coup, j'ai coupé aussi les scènes qui suivaient parce qu'elles découlaient. Parce que du coup, ça enchaînait dans autre chose. Mais j'ai tout coupé. On va dire que le meurtre y est, mais c'est une ellipse. Elle prend le couteau et c'est tout. Et ça suffit. Ce que j'avais réussi à construire comme tension était arrivé au niveau que je désirais atteindre. Et là, c'était vraiment du superflu et du coup du malsain. Parce que là, on tombait dans le voyeurisme bête. Donc, voilà, j'ai pas hésité à couper ça. Mais juste pour dire que, oui, ça. Voilà, l'écriture de cette scène-là, était vraiment. J'en avais vraiment la nausée. Du coup, je me disais bêtement, ah, c'est génial, je suis dégoûté moi-même, ça va fonctionner. Et le lendemain, en relisant, j'ai fait non, mais en fait, non, c'était pas une bonne idée. C'est vraiment. Ça sert vraiment à rien. Quoi.
Vous y pencherez au prochain caniche que vous avez.
Voilà.
Il y a vraiment ce côté, suivant l'état d'esprit, on est. C'est vrai, quand on part d'un truc, ah, c'est dégueulasse, c'est génial, au final, je trouve que la scène, elle est plus vraiment dérangeante parce que c'est du gore tellement extrême. Au final, c'est rigolo et même temps avec le monde, ça rigolo.
Là, c'était juste malsain. Hein. C'était vraiment malsain ce que j'avais écrit. Parce qu'il y avait le plaisir de la personne, en fait. C'était vu un point de vue plaisir.
Nico ?
Moi, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'écris rien de personnel. Ouais. Nous, on met à disposition des outils pour faire jouer.
Donc ça,
oui.
Dans la création de monde,
oui.
Dans la création d'univers,
oui.
Pas d'implication perso ?
Le moins possible. C'est pour ça que je n'écris pas du tout on peut écrire des petites nouvelles d'intro, c'est général, mais j'en fais jamais pour des trucs d'horreur. Je refuse absolument de mettre quoi que ce soit de personnel dans le. On utilise des choses plutôt qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on pense. Je crois que la chose la plus personnelle que j'ai fait, c'est quelque chose qui est pas du tout qui est horrible, mais qui joue pas du tout sur l'horreur. C'est un scénario pour Kull qui s'appelait Mort d'un mythe et qui pouvait être joué avec n'importe quel jeu d'horreur, où c'était juste des gens qui se retrouvent chaque année parce qu'ils sont connus enfants, autour d'un type qui les d'un autre enfant, mais qui les a aidés à évoluer. Ils ont tous eu des places super dans la société, tout va bien pour eux, etc. En fait, en dessous, pas trop, ils sont bien. Et cette année-là, ce type-là ne vient pas. C'est un grand journaliste qui avait pris Pulitzer, et ils ne le trouvent pas. C'est leur meilleur ami, donc ils vont essayer de savoir pourquoi il n'est pas venu. Ils le trouvent pendu dans son parc. Alors, avec un mot, je ne peux plus supporter la situation, et voilà. Et ça joue purement sur comment vont réagir les joueurs. Et on sait, dès le début, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont s'emparer de l'enquête. Ils vont défendre la femme de ce type en disant « Elle est innocente, on va prouver son innocence, elle n'a rien à voir dans le meurtre de son mari, parce qu'ils sont sûrs que ce n'est pas un suicide. » Et ils vont découvrir au fur et à mesure que ce type-là n'était pas ce qu'il croyait. Il faisait du snuff movie, c'est des films où on montre les gens donc en train de se faire tuer, etc. Et ça, a priori, c'est une légende urbaine, mais bon. Il y a des cassettes pédophiles, il trouve des trucs comme quoi il était sataniste, etc. Enfin, une accumulation. Il tombe sur sa maîtresse qui fait du sadomaso. Et à la fin, ils sont écœurés. Mais comment j'ai pu mettre ce type sur un piédestal? Et dans 99% des cas, ils vont le dénoncer à la police avec les indices. Mais c'est une manipulation de sa femme. Et donc ils jouent le jeu à 99%, parce que quelque part, ce type qu'ils admirent, qu'ils mettent sur un piédestal, qui est fabuleux, qui est génial, qui est tout pour eux dans leur vie, ils le haïssent de ça. Il est trop bien, il est trop grand, et ils sont ravis de le faire tomber. Le seul pourcentage, le 1% où ça ne fonctionne pas, les types, j'ai eu deux cas, je les ai fait jouer en convention, donc avec des parfaits inconnus. Ils mettent tout le monde dans le dernier entrepôt parce qu'ils trouvent un entrepôt avec un gamin enchaîné, enfin un truc absolument atroce. Il met le feu à l'entrepôt, il se suicide. Pour ne pas avoir, parce qu'il se dit toute ma vie est bâtie sur ce type, sur son mensonge, etc. Je ne peux pas le supporter. Il n'y a pas, à part des petites scènes, parce que bon, c'est pas sa maîtresse qui fait du sadomaso, enfin c'est pas super, et on voit pas grand chose, elle dit juste oh j'aime bien le fouet, enfin ce genre de truc, c'est pas très. Il n'y a pas de gros trucs. C'est juste. C'est basé sur le fait que ces types-là détestent leurs bienfaiteurs. Même s'ils prétendent le contraire, et c'est marqué nulle part dans le scénario, mais ça marche impeccablement. Je pense que c'est le truc le plus personnel que j'ai fait, puisque j'ai voulu jouer sur les réactions des personnages à une table en disant « il n'y a pas d'horreur, l'horreur c'est vous. C'est vous qui allez la provoquer ». Et y a une manipulation de sa femme qui, en fait, comme c'est dans Cult, c'est un agent d'un démon. Enfin bon, on va simplifier. Voilà. Mais c'est eux qui... et ça tourne systématiquement. Ça, c'est le jeu le plus personnel que j'ai fait. Sinon, on se borne sincèrement à mettre à disposition, justement, des meneurs de jeu. C'est eux qui vont mettre de leur personne dans le jeu, mettre ce qu'ils ont envie de faire, leurs fantasmes, ce qu'ils veulent, etc., à leur table. On leur donne juste les outils pour le faire. Donc, c'est pas... Et moi, non. Ben non. Justement, quand il fait beau et que les petits oiseaux chantent, j'écris plus facilement. Parce que quand je suis déprimée, je mets pas du Brel. Et je ne me pose pas ce genre de questions. Ça me rend encore plus malade. Donc, c'est... Non, non. Il faut que je sois, au contraire, de bonne humeur pour écrire des horreurs. C'est... Voilà.
Super. C'est un joli mot de la fin. Alors, on vous invite à les retrouver en dédicace en bas. Merci à eux. Et puis, merci à vous.
Quand même. Ouais. Donc on aurait dû s'en douter. Si.